Dimanche dernier, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, s'est prononcé en faveur de protection pour éviter la spéculation étrangère sur les terres agricoles et favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Dans le même temps, l'artificialisation des sols, l'urbanisation continue au détriment des surfaces agricoles disponibles. Alors comment protéger les terres agricoles françaises et lutter contre l'artificialisation des sols ? Eh bien, pour en parler, je suis en compagnie de Dominique Potier.
Bonjour.
Vous êtes député de Meurthe-et-Moselle, groupe Nouvelle Gauche Esprit Civique, co-rapporteur d'une mission d'information commune sur le foncier agricole. Et à côté de vous, Emmanuel Hiest, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération Nationale des SAFER, les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural. Et tout d'abord, je vais vous demander de nous exposer à nous autres citadins ce qu'est une SAFER.
La SAFER a été créée en 1960 et c'est une structure qui a pour objet la protection du foncier agricole, sa régulation. Et donc le foncier agricole, c'est un véritable enjeu pour notre société et pas que pour les agriculteurs. C'est le support de la production alimentaire. C'est aussi tout ce qui reçoit l'eau qui tombe sur les terres. Donc c'est un véritable enjeu et donc les SAFER ont comme rôle, je le répète, cette régulation qui permet l'installation des jeunes agriculteurs, qui a permis l'accompagnement des collectivités, la protection du foncier, la protection de l'environnement.
Ce qui veut dire que lorsqu'on vend une terre agricole, la SAFER a un droit de regard, elle peut préempter la terre, elle peut décider si oui ou non la vente se fait.
Alors, la SAFER peut préempter néanmoins dans son activité au quotidien. 90% de notre activité se fait à l'amiable, parce que bien évidemment, dans une société équilibrée, s'il n'y a que le bâton, ça fonctionne pas très très longtemps. Et donc, on a pris l'habitude de travailler à l'amiable.
Ce que je voulais souligner, c'est que la vente de terres agricoles en France, elle n'est pas complètement libre, ça n'est pas identique à un autre bien.
Tout à fait, tout à fait. Justement, lié à cet enjeu, de l'enjeu de l'alimentation, le droit de préemption est quelque chose qui permet une intervention et qui permettait de façon complètement exhaustive jusqu'à il y a une dizaine d'années. Malheureusement, aujourd'hui, les sociétés se sont mises en place et les sociétés, c'est quelque chose qui a été tout à fait bénéfique pour l'agriculture, pour les jeunes. Mais comme malheureusement souvent en France, quand il y a une loi, il y a des gens qui cherchent à détourner la loi.
Allons donc.
Et donc aujourd'hui, via ces sociétés, on a vu, les Chinois ont pu acheter, mais majoritairement en France, comme dans tous les pays du monde, les gens qui accaparent du foncier, ce sont d'abord des nationaux.
Dominique Potier.
Oui, la terre en France n'est pas, comme dans la plupart des pays, n'est pas une marchandise comme les autres. Et il faudrait faire un peu d'histoire peut-être pour comprendre ce qui se passe autour de la terre dans notre pays aujourd'hui, pour bien voir l'avenir. Ça commence à la Révolution, on s'affranchit, on devient libre, on devient propriétaire. Le paysan passe de laboureur à propriétaire entrepreneur, il devient paysan et il devient par là même un soldat de la République, c'est Gambetta, c'est la Troisième République. Dans l'après-guerre, on considère qu'il faut moderniser le pays, qu'il faut produire plus, il faut nourrir la terre, et on considère que la terre est alors un instrument de travail. Et il faut le réguler, le mettre au service d'une nouvelle génération entrepreneuriale, et c'est des mécanismes de régulation qui sortent la propriété un petit peu de sa puissance ancienne pour ouvrir le champ de l'entrepreneuriat. Et c'est le temps des SAFER que vient de décrire Emmanuel Hiest, un organisme gendarme capable de réguler, d'intervenir sur le marché, de le gérer. Et puis c'est les lois du fermage qui protègent le travail par rapport aux propriétaires du capital foncier. Et ça fait l'objet d'un pacte, un peu de patrimoine, un peu de régulation de l'État. Tout est à peu près ordonné jusque dans les années 2000, où interviennent trois dérégulations. La première, c'est une forme d'individualisme paysan, une compétition entre les agriculteurs qui se développe. Il y a moins d'esprit de solidarité, de coopération. Il y a des lois qui vont s'ébrécher, celles qu'on essaie de réparer aujourd'hui, justement. Il y a des brèches qui s'installent dans la législation. On veut simplifier. Vous savez, les simplifications, il faut parfois s'en méfier. Et puis, le troisième élément qui est très important, c'est que c'est des capitaux privés, avec la crise des subprimes, qui arrivent sur le marché agricole et qui envisagent, ce qui était un peu inédit jusqu'à présent, une forme de capitalisme agraire. Donc, on passe de la ferme à la firme et on voit des capitaux de toutes origines qui viennent investir dans le foncier avec ce calcul qui est un petit peu cynique, somme toute, c'est celui de dire que 9,5 milliards et demi d'habitants sur une planète finie, la Terre va devenir un objet de spéculation. Donc il y a une rupture avec le pacte et l'arrivée des Chinois, dont j'aime dire...
Justement les Chinois, oui. Parce qu'il va falloir préciser quand même de qui il s'agit et également de quelle proportion on parle aujourd'hui.
Alors Emmanuel, je pense, en parlera plus savamment que moi, mais c'est quelques milliers d'hectares. On pourrait considérer que c'est pas grand-chose. Moi, on a tendance à dire que c'est un arbre qui a révélé la forêt des agrandissements démesurés. par le phénomène sociétaire qu'il vient de dénoncer. Mais on sait désormais que c'est une politique qui est délibérée, c'est un capitalisme d'État, c'est constituer un patrimoine foncier dans notre pays. Et c'est pour ça que nous nous sommes levés et que nous sommes mobilisés depuis 4 ans et que nous allons réussir.
Alors ça veut dire quoi, Emmanuel Diest? Aujourd'hui, les Chinois, est-ce que c'est l'équivalent du plombier polonais dans le domaine agricole? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme ambition en matière donc d'achat de terres agricoles?
En France, quand déjà on peut acheter du foncier, et quand on est acheteur, on est propriétaire plein. Il y a peu de pays dans le monde où on a cette capacité. Il y a beaucoup d'endroits où on est concessionnaire, où on a un droit d'usage. En France, on est propriétaire. Donc déjà, c'est quelque chose. Ensuite, les Chinois, on le sait tous, c'est une part très significative de la population mondiale, autour de 20%. Et ils ont 8-9% de la surface agricole du monde. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'aller acheter ailleurs que chez eux des produits. Jusqu'à présent, c'est ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils veulent acheter le foncier. Et là, ça change tout. Parce que c'est le foncier, c'est le support, c'est l'autonomie alimentaire d'un pays. Et un grand pays comme la France a des agriculteurs, a des jeunes agriculteurs qui souhaitent produire, s'installer. Et donc, ça a été tout à fait mal perçu par les agriculteurs, évidemment. Mais je pense par l'ensemble de la population française de voir... Comme le disait Dominique Potier, c'est pas des individus, c'est une volonté politique d'un pays de venir acheter de la terre en France.
Aujourd'hui, quel est le pourcentage de terres agricoles françaises détenues par des Chinois?
Il est très faible. Il est très faible. On est au début, faut pas aller raconter n'importe quoi.
Il y a deux vignobles bordelais.
Il y a plus que ça, mais sur les châteaux bordelais,
il y a ça déjà.
Ça s'est fait dans la transparence. Là où ça devient plus grave, c'est quand les terres agricoles ont été achetées. Là, on a utilisé le mécanisme dont je parlais tout à l'heure pour acheter sans que la SAFER puisse contrôler, parce que si les Chinois n'avaient pas eu ce système sociétaire...
Ouais, parce les SAFER, il faut expliquer que quand vous rachetez des parts sociales, voilà, la SAFER ne peut pas préempter.
La SAFER ne peut travailler que, préempter, que sur du foncier physique, c'est-à-dire le bien en lui-même. Là, aujourd'hui, le mécanisme, c'est que les gens créent une société, la société est propriétaire du foncier et on vend des parts de société. Et à l'époque, pendant la loi d'avenir, on avait déjà signalé que si c'était seulement 100% des parts sociales, on ne pourrait pas intervenir parce que les gens n'en vendraient que 98 ou 99%. Et c'est ce qui se passe.
Dominique Potier, votre réaction?
Oui, alors c'est quelques milliers d'hectares en France, mais c'est des terres à blé. Donc symboliquement, sans faire Peggy, mais on est quand même sur le symbole du blé, des terres à blé. Hein. C'est pas des objets à haute spéculation comme certains vignobles. C'est bien la terre à blé, donc c'est le pain, la nourriture de tous les jours qui est en jeu, donc la souveraineté alimentaire. Moi, j'aimerais insister sur le fait que quand un Chinois arrive, il y a 99 Gaulois qui derrière ont joué du même mécanisme. C'est-à-dire que ce phénomène sociétaire permet dès aujourd'hui aux plus puissants du monde agricole, sous des formes sociétaires, d'accaparer, de s'agrandir de façon démesurée.
Justement, qui aujourd'hui...
Ce sont des agriculteurs qui sont mieux positionnés économiquement et qui captent une sorte de monopole
du marché foncier
sur les terres. Céréaliers, éleveurs, peu importe, c'est pas leur catégorie qui compte.
Non, mais je cherche pas à les stigmatiser, je cherche à comprendre.
C'est certaines exploitations, avec ou sans des capitaux extérieurs, aujourd'hui ont une situation de quasi-monopole sur les territoires. Donc on a des agrandissements démesurés et une incapacité à la nouvelle génération, à la relève qui est fondamentale pour notre pays, pour la biodiversité, pour la souveraineté alimentaire.
Mais dans le même temps, Dominique Potier, on n'arrête pas de dire que les agriculteurs doivent atteindre une taille critique en matière d'exploitation s'ils veulent gagner leur vie.
Je crois que c'est une erreur. La diversité du paysage économique, des entreprises, leur capacité à coopérer entre elles est une force bien plus grande que les monopoles aujourd'hui.
Vous dites que c'est une erreur, mais aujourd'hui on a un problème de revenus agricoles.
L'enrichissement de quelques-uns provoque un appauvrissement collectif. Appauvrissement de l'économie globale agricole, de la biodiversité, encore une fois, et puis de notre souveraineté alimentaire. Donc c'est des fermes, pas des firmes.
Emmanuel Diest, vous occupez des SAFER, de ces organismes qui contrôlent la revente des terres agricoles.
Sur ce point-là, je partage vraiment l'approche. Si l'agrandissement était la solution aux revenus de l'agriculture, ça se saurait. Malheureusement, on voit bien que des exploitations qui s'agrandissent de façon démesurée, aujourd'hui, n'ont pas un prix de revient inférieur aux autres exploitations. Et moi, je peux vous donner un exemple de ce qui se passe dans ma région, en Normandie. Aujourd'hui, c'est les plus belles exploitations qui sont reprises. Donc c'est celles qui, normalement, devraient pouvoir facilement être reprises par un jeune et permettre de continuer à gagner sa vie, qui sont accaparées par d'autres qui ont déjà des très grosses surfaces.
Et oui, parce que alors il y a autre chose sur quoi il faut insister, Emmanuel Diest, vous qui surveillez donc en quelque sorte la vente et la revente de ces terres agricoles, c'est que d'une part, il y a une pénurie de terres agricoles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient trouver des terres et qui n'en trouvent pas, et il y a ensuite une concurrence non seulement entre les agriculteurs pour cette terre agricole, mais aussi pour construire des maisons sur les terres agricoles.
Tout à fait. Et je pense que en France, mais partout dans le monde, mais la première des choses, c'est la protection du foncier agricole. Il faut absolument, et c'est pas corporatiste ce que j'ai dit là, le foncier agricole, c'est un bien commun. Aujourd'hui, c'est excessivement important qu'on le protège. D'abord, pour justement permettre l'installation des jeunes agriculteurs, on a la chance en France, et c'est une vraie chance par rapport à d'autres pays européens, d'avoir un vivier de jeunes qui sont passionnés par leur métier et qui ont envie de s'y engager. Et si on ne le protège pas et si on n'a pas un moyen d'éviter l'accaparement, tous ces jeunes-là seront sacrifiés et dans quelques années, on se réveillera en disant bah, « si on avait su, il aurait fallu faire quelque chose ».
Mais pratiquement, comment fait-on pour construire sur une terre agricole? Parce que les terres agricoles, elles ont une classification spécifique, Emmanuel Hyest. Impossible, évidemment, d'obtenir un permis de construire si vous êtes sur une zone agricole. Comment fait-on?
Alors, là, c'est la responsabilité unique des élus locaux. L'urbanisme, c'est la mairie et le conseil municipal.
Alors, pourquoi faut-il cela?
Et je pense, alors, de plus en plus d'élus ont compris que la protection du foncier agricole, c'était quelque chose d'important. Néanmoins, il y a encore des pressions fortes. Mais vous savez, quand on est dans un pays où vous passez d'une terre agricole qui vaut 1 à un terrain à construire qui vaut de 100 à 500...
Parce qu'il faut donner des prix. Une terre agricole, aujourd'hui, l'hectare, il vaut quoi, entre 3 000 et 7 000 euros?
Ça vaut en moyenne 7 000, on va dire, entre 5 et 10 000 euros en fonction des endroits.
Bon, et si vous le transformez en terre constructible...
Ça vaut 100 000, 200 000, 500 000 euros l'hectare. Et donc là, vous imaginez, voire plus, dans certains secteurs, à pression forte, le littoral, sur les îles et tous ces endroits.
Métropole.
Donc, évidemment, s'il n'y a pas une régulation forte, les gens sont tentés.
Et oui, parce que Dominique Petit, il n'y a pas que les Chinois dans la vie, il y a aussi les Français, et les Français qui font construire des maisons, par exemple. Et
on est tous un peu responsables, on sera tous une partie de la solution. Je crois que le mouvement, il est parti, il y a des lois, des schémas de cohérence territoriaux, les plans, j'étais hier avec des présidents d'intercommunalité, ils sont tous sur le territoire, sur la circonscription dont je suis élu, à Toul, ils sont tous en plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ils vont arrêter la compétition entre communes pour les lotissements, et ils vont gérer une sorte de sobriété de consommation du foncier. Un travail intelligent qui a été fait avec la métropole de Nancy a permis de rendre la moitié des terres consacrées aux zones d'activité économique à l'agriculture. Donc il y a des mécanismes aujourd'hui, il faut accélérer le mouvement, et c'est le but de la mission qui a été créée par la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, c'est partager et protéger le foncier. Il faut le protéger de l'artificialisation inutile, il faut changer de paradigme, mais par ailleurs, il faut le partager. Le partage est une force, et la vraie révolution aujourd'hui dans l'agriculture comme ailleurs, c'est le partage.
Alors, on a une solution, parce qu'en France, il y a toujours une solution à tous les problèmes, et cette solution, elle passe par une taxe. Nicolas Hulot envisage une taxe béton. Vous en pensez quoi?
Alors, le président de la République a fait des annonces. Il a dit qu'on allait se protéger des investisseurs étrangers.
Bon, ça, c'est une chose.
Mais ça fait quand même 4 ans que je suis sur ce combat, qu'on a levé ce combat à l'Assemblée. Moi, je suis très heureux de ce moment-là, parce que c'est une bataille culturelle qui a été initiée au Parlement. On a été la loi agricole. Il y a eu la loi Sapin. On a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il y a eu la loi accaparement des terres que j'ai portée à la fin du dernier mandat. On a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et là, il y a une volonté qui semble s'affirmer. Donc le travail de la société civile, des paysans, de tous ceux qui sont sensibles à l'écologie, à l'avenir de notre planète, mais également le combat du syndicalisme agricole et celui des députés, paye aujourd'hui. C'est une victoire de la démocratie, et j'aime bien raconter ces victoires de la démocratie. Alors c'est vrai, on va peut-être jouer de la fiscalité, mais on va jouer également du règlement et de la loi. Et puis, je le dis,
il
faudra peut-être revoir notre Constitution. Ça fait 3 fois que la Constitution privilégie au bien commun.
Il va falloir inscrire ça dans la Constitution.
Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter. Il ne faut pas miser que là-dessus, mais il ne faudra pas l'écarter. Aujourd'hui, la Constitution protège la liberté d'entreprise et la liberté de société, parce qu'à la Révolution, c'était l'émancipation du sujet. Aujourd'hui, ça devient l'instrument d'une nouvelle tyrannie. Donc, il faut vraiment s'interroger sur cette toute-puissance de la liberté d'entreprise. Il faut la réguler. Il faut dire que la souveraineté alimentaire, la paix, la biodiversité, ça n'a pas de prix.
Vous ne m'avez pas répondu sur la taxe béton.
Mais j'y suis favorable. Ça sera un des moyens, c'est pas le seul. Il faut des limites prévues par les plans d'urbanisme, l'urbanisme en général. Et puis par ailleurs, il faut certainement un instrument fiscal.
Emmanuel Hyest.
Moi, je pense personnellement qu'il faut plutôt une bonne protection. Parce que la taxe, finalement, qu'est-ce qui se passe? Oui. Vous l'appliquez et elle surenchérit le coût de l'immobilier derrière, parce qu'on l'applique aux gens qui vont acheter le foncier derrière. Donc moi, je pense qu'il faudrait mieux une protection généralisée du foncier agricole, se dire qu'aujourd'hui, c'est un bien qu'il faut absolument garantir, comme on l'a fait pour la forêt, par exemple, et ça ne choque personne. Aujourd'hui, pour détruire une forêt, c'est très très compliqué. Moi, je suis persuadé que, vu les enjeux du foncier agricole, c'est une protection généralisée.
Et Emmanuel Guies, comment expliquez-vous, parce que là aussi, il faut probablement souligner cet état de fait qui n'est pas forcément connu. Moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs autour de moi qui cherchent des terres qui n'en trouvent pas, qui aimeraient bien s'agrandir parce que, alors vous dites qu'il n'y a pas de prime aux grandes exploitations, mais il y a en tout cas une taille critique en deçà de laquelle vous avez du mal à gagner votre vie. Dominique Potier n'est pas d'accord. Je vais vous laisser répondre Emmanuel Guies et ensuite on posera la question à Dominique Potier.
Il faut bien évidemment, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Il faut gagner sa vie, il faut un projet économique. Mais c'est
pourquoi
pas la
ceci
taille.
Ne trouve pas de terre?
Parce que justement, il y a une concurrence entre le changement de destination, qui est très très fort, et puis une concurrence avec les gens qui aujourd'hui ne peuvent plus accéder au foncier parce que la SAFER ne peut pas intervenir à cause des modèles qui se sont mis en place avec des sociétés qui sont détenues. Et donc c'est
et
ça l'enjeu.
Et pourquoi on ne légifère pas à ce sujet?
Mais c'est ça qu'on fait depuis 4 ans. Qu'on essaie de le faire.
Ça fait 4 ans et en et fait on aujourd'hui, on est confronté entre le droit rural, le droit des sociétés et le Conseil constitutionnel. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Il faut qu'on se rende compte que un équilibre, c'est nécessaire et qu'il y a besoin de cette régulation.
Dominique
Potier. L'équilibre, il passe par des limites. La modernité, c'est de redécouvrir le sens des limites et poser des limites sur le foncier, comme vient de le dire Emmanuel, en posant clairement une interdiction, une protection au nom des générations futures. Moi, j'aimerais dire ici que si la France fait l'objet aujourd'hui d'accaparement des terres par des fonds d'investissement étrangers ou nationaux, il faut qu'on se souvienne que parfois, les entreprises françaises, nos banques, nos entreprises agroalimentaires ont participer à l'accaparement des terres dans les pays du Sud. C'est 28 millions d'hectares dans les pays les plus fragiles où il n'y a pas de cadastre, où il n'y a pas de puissance publique qui sont accaparées. Et l'ONU nous dit que c'est une cause de violence et de misère supérieure aux guerres aujourd'hui dans le monde. Donc ce n'est pas un sujet franco-français nationaliste, c'est une vision, je crois, un peu universelle de la terre comme un bien commun qu'il nous faut protéger et partager pour aujourd'hui et pour demain. Il n'y aura pas d'agroécologie sans relève et il n'y aura pas de relève agricole si on n'a pas des limites qui sont posées et un partage de la terre entre les paysans et limitant les investisseurs extérieurs.
Emmanuel Guies, la terre elle n'est pas fongible. Est-ce qu'il y a des endroits en France où vous n'êtes pas en tension sur le plan du foncier agricole? Est-ce qu'il y a des lieux où il reste encore de la terre disponible, où celle-ci n'est pas suffisamment mise en valeur?
Alors, en France, il y a une pression foncière forte à peu près partout sur le territoire. Il y a un secteur aujourd'hui qui n'est pas un secteur géographique, mais qui est un secteur économique. C'est tout ce qui concerne l'élevage et c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète particulièrement parce que, comme le disait Dominique Potier, on parle d'agroécologie, on parle d'agronomie. Et pour faire de l'agronomie, il faut un équilibre entre le végétal et l'animal. Et il y a absolument besoin qu'on prenne vraiment conscience que s'il n'y a pas un accompagnement autour des entreprises de l'élevage, demain, on sera dans une vraie difficulté.
Pourquoi?
Parce que si ces exploitations-là ne sont pas là, pour qu'il y ait un équilibre, il faut produire de la matière organique, on en a besoin, et les animaux en sont vraiment des grands pourvoyeurs. Et il y a des régions entières où, notamment toutes les régions de moyenne montagne, toutes les régions qui sont entre guillemets un peu plus difficiles, où on élève des animaux à l'herbe, pour qu'on puisse continuer à avoir, vous voyez, des herbages, il faut de l'élevage. Et ça, nous, aujourd'hui, on a des difficultés à revendre certaines exploitations dans ces zones-là.
Mais alors, c'est plus une question liée à l'agriculture de montagne ou de moyenne montagne, avec des aides et des difficultés particulières pour ces zones-là?
Pas que de montagne, non, c'est vraiment partout. Je dis, l'élevage, c'est dans les vallées. Moi, dans ma région, en Normandie, on n'a pas de montagne. Hein. ça se saurait, sinon. Et néanmoins, des exploitations d'élevage laitier, qui jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, on avait vraiment une très très forte demande de jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on a des exploitations qu'on n'arrive pas à revendre. C'est une vraie inquiétude.
Et c'est ce que dit Emmanuel, est extrêmement important, parce que l'élevage et la connexion entre l'élevage et la culture, la polyculture-élevage, c'est l'agroécologie. Et sans cette agroécologie, on n'aura pas une contribution positive de l'agriculture, non seulement des aliments sains, non seulement à une occupation du territoire, mais à une capacité à lutter contre le changement climatique. La grande découverte du début du XXIe siècle, c'est la contribution des sols à la lutte contre le changement climatique. Un sol bien géré, bien protégé, avec un taux d'humus important et nos prairies permanentes et l'élevage herbivore contribuent grandement à la lutte contre le changement climatique. C'est une contribution capitale. Donc je le dis vraiment avec force, la connaissance, la protection et le partage des sols est un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle. On en est au bégaiement et je suis très heureux qu'en France, on ait entamé ce combat il y a quelques années et qu'on soit à l'horizon 2019, mais peut-être à court terme avec des mesures d'urgence, en train de réinventer une appropriation du sol comme un bien commun.
L'autre question, c'est l'ensemble de ces territoires qui aujourd'hui peuvent être classés en bio, puisque lorsqu'on a une terre qui doit être offerte à une agriculture biologique, il ne faut pas que les terres aux alentours soient polluées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est considéré et qui donne lieu à un certain nombre de mesures, Emmanuel Hiest ?
Alors, aujourd'hui, dans le cadre de la loi, une terre qui a été transformée en bio doit être rétrocédée à un agriculteur bio. C'est tout à fait quelque chose de positif, mais déjà depuis quelques années, maintenant on codifie nos attributions et je peux dire ici que par l'intermédiaire des SAFER, quand on est un agriculteur bio, on a deux fois plus de chances d'être attributaire de terre que si on a un agriculteur traditionnel.
D'accord.
Donc c'est déjà le cas aujourd'hui, depuis quelques années. Et puis, il y a un principe, bien même au-delà du bio, c'est qu'on essaie de maintenir la vocation d'une exploitation. C'est-à-dire que si c'est une exploitation d'élevage, elle reste d'élevage. Si c'est pour que l'utilisation des fonds publics, parce que souvent il y a eu des aides pour moderniser, pour améliorer, ça serait quand même quelque chose d'aberrant de dire qu'on va transformer demain et gaspiller ces fonds publics qui ont été utilisés pour moderniser l'agriculture.
Dominique Poitier.
Avant d'être député, j'étais paysan et paysan bio. Et j'ai toujours défendu dans la loi qu'il n'y ait pas une priorité au bio en tant que tel, mais une priorité au petit, à l'esprit d'entreprise par rapport à la puissance financière et à la taille de l'exploitation. Donc ma priorité, c'est d'abord le partage social pour la vraie liberté d'entreprise dans le monde agricole. Et puis la part du bio, moi j'ai participé aux états généraux de l'alimentation, il y a une loi qui arrive. Moi je pense qu'on va vers un paysage où à l'horizon 2030, on aura... Dans notre pays, on peut espérer avoir un tiers de bio, un tiers d'agriculture raisonnée, conventionnelle, de bonne qualité, et puis un tiers de haute valeur environnementale, qui pourrait être le nouveau nom de l'agroécologie. Et ça, je pense vraiment que c'est le moteur du futur.
Qu'est-ce que c'est, haute valeur ?
La haute valeur environnementale, c'est un peu comme le bio, c'est les bonnes pratiques agronomiques qui protègent l'humus, qui ont un bon bilan carbone, qui protègent l'emploi sur nos territoires, dans les exploitations, la valeur ajoutée, et c'est certainement la clé du futur.
Vous pensez que c'est viable, Emmanuel Hiest ?
Ah oui, je suis persuadé que c'est viable. Et d'ailleurs, on voit une vraie évolution dans les jeunes agriculteurs qui aujourd'hui sont en train de s'installer. Ils ont une autre vision de l'agriculture parce que d'abord, je pense que la plupart d'entre eux refuseront d'être stigmatisés comme ça l'est depuis quelques années où les agriculteurs sont montrés du doigt. Les jeunes qui viennent dans le métier aujourd'hui souhaitent démontrer que ce qu'ils font est bien. Et donc les pratiques sont en train de totalement évoluer. Il va y avoir aussi un équilibre entre la production, la vie familiale, et c'est aussi ça le modèle. Le fait d'éviter l'accaparement, c'est qu'on soit dans un système qui est plébiscité, je pense, par nos concitoyens. Ce modèle d'agriculture familiale, c'était pas des petites exploitations, c'était des exploitations où l'agriculteur était au cœur du métier.
La défense de l'humus et d'un nouvel humanisme, c'est le même combat. Nature, culture, futur.
Et les marges, parce que je suis désolé de briser un peu la poésie de votre discours, mais on évoque beaucoup, malgré tout, le niveau de vie des agriculteurs qui est particulièrement bas. Et donc, une fois qu'on a protégé l'humus, comment fait-on pour protéger l'humain ?
La justice, l'esprit d'entreprise, l'inventivité du monde agricole, le biocontrôle, les nouvelles technologies, les savoir-faire, la coopération, c'est ça la véritable innovation. La coopération et l'innovation, c'est les clés du futur.
Emmanuel Hiest, sur les reventes de terres, parce que là aussi, vous devez voir quand même des reventes qui sont liées tout simplement au fait que certains agriculteurs ne s'en sortent pas.
Oui, oui, tout à fait. Malheureusement, on le voit bien. Et les SAFER, justement, on participe à éviter que ces agriculteurs qui soient amenés à revendre leur foncier perdent l'utilisation de ce foncier, parce qu'il y a deux enjeux dans l'agriculture. Vous êtes propriétaire du foncier et vous l'exploitez. Et les SAFER aujourd'hui vont chercher des apporteurs de capitaux, donc des personnes qui ont la chance d'avoir des revenus qui leur permettent d'acheter des terres agricoles. Et ces gens achètent, la SAFER leur attribue, et ils vont faire un bail, soit un jeune agriculteur, soit l'agriculteur qui était amené à vendre. Et donc ça, c'est quelque chose de très très positif, de mettre en relation des gens qui peuvent être des voisins, et un qui a des capitaux, l'autre qui en a moins. Et on met ensemble, on continue le modèle qui existe depuis des centaines d'années.
Merci Emmanuel Hiest. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Nationale des SAFER, donc ces entités qui s'occupent donc de gérer et de superviser la vente et revente du foncier agricole en France. Et Dominique Poitier, merci beaucoup. Vous êtes député de Meurthe-et-Moselle, groupe Nouvelle Gauche Esprit Civique, et co-rapporteur d'une mission d'information commune sur le foncier agricole.